Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Benoît XVI souhaite que les administrations publiques reconnaissent le rôle social et culturel des gens du cirque et des forains et que la société civile surmonte ses préjugés à leur égard. Benoît XVI qui a caressé un lionceau au cours d'une rencontre insolite au Vatican, compte rendu dès le début de ce magazine. Une responsabilité en plus pour les évêques diocésains, ils devront veiller sur l'activité et la gestion des organisations caritatives de l'Église pour qu'elles respectent les normes ecclésiales et les législations civiles en gardant leur esprit évangélique. Par un motu proprio, le pape leur a donné un cadre juridique. La voix de l'autre, entendre la pauvreté. Attention, il y a quelqu'un dedans. Deux titres, deux ouvrages dont il sera question dans ce magazine. Et en fin d'émission, ne manquez pas le commentaire de l'Évangile. Au Vatican, la salle Paul VI a été le théâtre ce samedi en fin de matinée d'une rencontre inédite et festive. Benoît XVI a reçu en audience les gens du cirque, forains, artistes de rue et fanfares, plus de 7000 personnes venues du monde entier à l'initiative du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement. Sur leur chemin vers la salle Paul VI, ils avaient parcouru en fanfare l'avenue de la Conciliazione et depuis le château Saint-Ange. La veille, ils avaient installé sur la place Saint-Pierre un manège à l'ancienne et un chapiteau de cirque. L'Église, leur a dit le pape, est pèlerine comme vous et elle vous invite à collaborer à la nouvelle évangélisation. Visiblement heureux et touché, Benoît XVI a salué les valeurs chères aux gens du cirque, l'amour de la famille, l'attention pour les plus petits, les personnes âgées ou handicapées, le dialogue entre les générations, le travail d'équipe, le sens de l'amitié, l'accueil et l'hospitalité. Il a évoqué les sacrifices et le courage que leur métier comporte, des vertus que la société actuelle ne sait plus toujours apprécier. On écoute le pape.
Chers amis, votre charisme consiste à donner aux autres la joie, le sens de la fête et de la beauté. Que votre joie trouve sa source en Dieu et qu'elle soit fortement associée à la confiance en lui et en son amour. Une joie pleine d'humilité et de foi. Devenez donc des imitateurs de Dieu et cheminez dans la charité en apportant à tous la joie de la foi.
Avant son discours, je vous le disais, le pape s'était arrêté un moment pour saluer les gens du cirque et a caressé un lionceau. La joie et le divertissement étaient donc au rendez-vous, même si la vie des forains est loin d'être facile. Plusieurs participants ont pris la parole au cours de cette rencontre. Un forain français, Gérard Cousenon, a raconté avoir été guéri miraculeusement l'année dernière d'une méningite foudroyante. On l'écoute.
Ça existe, les miracles, parce que moi, je suis un miraculé de la vie. D'ailleurs, le médecin m'a dit « Vous êtes croyant ?» Je lui ai répondu « Oui, je suis croyant, je suis catholique, je suis un gars d'église. » Je ne regrette pas du tout que mes parents m'ont transmis la foi. Petit, j'ai reçu le baptême, j'ai fait ma première communion, la communion solennelle, la confirmation, et j'en suis fier. C'est nos parents qui nous ont donné la foi. La foi est dans nous et les saints sont là pour nous soulager. J'avais peur de la mort. Maintenant, je crois que quand le jour et l'heure sera sonné, j'irai rejoindre ceux que j'ai aimés, comblés dans l'espérance de la vie éternelle, avec sa volonté. Que Seigneur vous protège.
Un forain français qui a pris la parole devant le pape ce samedi matin au Vatican. En juin 2011, dans une autre fête riche en couleurs, rythmée par des danses traditionnelles, Benoît XVI avait reçu 1400 pèlerins de la communauté des gens du voyage, une première historique dans les relations entre la communauté rome et l'Église. Et ce samedi, en début de soirée, Benoît XVI devait présider une rencontre d'un tout autre genre, la célébration dans la basilique Saint-Pierre des premières vêpres de l'Avent pour les étudiants universitaires de Rome. pour utiliser la dénomination catholique, les organismes caritatifs devront désormais avoir le consentement écrit de l'autorité compétente et choisir leurs propres collaborateurs parmi des personnes qui partagent ou au moins respectent l'identité catholique de ces œuvres. Benoît XVI a décidé de donner un cadre juridique organique au service de la charité dans l'Église, répondant à une proposition du Conseil pontifical Cornum dirigé par le cardinal Robert Sarah. Il a publié ce samedi un motu proprio intima ecclesiae natura. En 15 articles de loi, ce document vise à ordonner les différentes formes ecclésiales de la charité et à garantir leur lien étroit avec la nature diaconale de l'Église et du ministère épiscopal. Le motu proprio est un acte législatif pris et promulgué par le pape agissant de sa propre initiative. Il équivaut à un décret qui précise des règles d'administration et d'organisation dans l'Église. Xavier Sartre.
Le service de la charité est l'une des trois expressions de la nature profonde de l'Église, mais il exige une organisation pour un service communautaire ordonné. Il doit par ailleurs sauvegarder son identité et ne pas se dissoudre dans une organisation commune d'assistance. Par ce motu proprio, Benoît XVI veut combler une lacune juridique concernant notamment la responsabilité des évêques dans ce domaine et mettre en évidence les profils juridiques qu'un tel service requiert dans l'Église. À côté de la Caritas, soutenue officiellement par l'autorité de l'Église, de multiples autres initiatives organisées et promues par les fidèles ou par la hiérarchie elle-même ont vu le jour en des lieux divers. Elles requièrent une gestion appropriée conforme aux exigences de l'enseignement de l'Église ainsi qu'aux normes légitimes promulguées par l'autorité civile. Il était donc nécessaire de fixer dans le droit de l'Église quelques normes essentielles permettant d'expliciter dans ce secteur d'activité les responsabilités juridiques de chacun et la fonction d'autorité de coordination qui revient à l'évêque diocésain. Tout cela dans le respect de la diversité appréciable des institutions d'inspiration catholique et de l'autonomie légitime de chaque entité. C'est donc chose faite. La lettre apostolique en 15 articles entrera en vigueur le 10 décembre. Les statuts des initiatives collectives de charité devront désormais être soumis à l'approbation de l'autorité ecclésiastique compétente. Le Conseil pontifical Coronum veillera à l'application de ces règles à tous les niveaux.
J'ajoute que l'évêque diocésain devra notamment éviter que des organismes de charité qui sont sous son autorité soient financés par des entités ou des institutions qui poursuivent des buts contraires à la doctrine de l'Église. Le motu proprio préconise par ailleurs une formation de ceux qui exercent le service de la charité dans l'Église, y compris dans le domaine théologique et pastoral. Je vous invite à retrouver le texte intégral de ce décret sur notre site internet www.radiovaticana.va. Dernier épisode à présent de notre série consacrée à la pauvreté, une série réalisée à l'occasion d'une initiative lancée cette semaine par l'Union européenne de radiodiffusion Why Poverty, à laquelle Radio Vatican a tenu à s'associer. Nous entendrons aujourd'hui le témoignage de Jean-Michel Caillot, volontaire assidu de l'association ATD Quart Monde. Selon lui, pour lutter contre la précarité, il faut d'abord la comprendre mieux, il faut penser le monde à travers elle, apprendre à écouter les pauvres, mais aussi apprendre d'eux. Jean-Michel Caillot est co-auteur d'un ouvrage collectif, La voix de l'autre, entendre la pauvreté, paru aux éditions Labor et Fides.
Ce n'est pas le fait de voir des gens très pauvres qui nous apprend quoi que ce soit, il faut encore avoir un regard et une oreille qui soient attentives d'une certaine manière. Et peu à peu, j'ai découvert, je dis bien peu à peu parce qu'il a fallu des mois et des années, que cette expérience est une expérience humaine fondamentale, je veux dire l'expérience des gens qui vivent dans la misère, l'expérience du mépris, de la honte, de l'humiliation, du rejet, d'une ne compter pour rien. C'est une expérience humaine fondamentale et une expérience qui nous manque. Quand je dis qui nous manque, c'est-à-dire qui manque à vous, qui manque à moi, qui manque à notre société, qui manque à notre Église, qui manque à tous les gens qui vivent sur la Terre. C'est une expérience qui, tant que nous ne l'avons pas entendue et tant que nous n'avons pas décidé de réfléchir à partir d'elle, eh bien, notre humanité n'est pas accomplie.
Et comment peut-on faire pour réfléchir à partir de la pauvreté alors ?
Comment faire ? C'est-à-dire ne pas imaginer, par exemple, vous qui m'interrogez, que vous avez la vérité sur le monde, que vous connaissez mieux que moi, ou mieux que le plus pauvre dans votre montée d'escalier, ou mieux que le plus pauvre dans votre rue.
Mais alors pour comprendre la misère, pour comprendre le pauvre, il faut se mettre à sa place. Est-ce qu'il faut soi-même devenir pauvre ?
On peut se mettre à la place de personne. Première chose. Deuxième chose, il n'est pas question de devenir misérable. Mais de fait, vous avez raison, il faut devenir pauvre. C'est-à-dire que la misère dans ce monde cessera un jour, parce qu'il faut la détruire, il ne faut pas la soulager, la misère. Eh bien, elle sera détruite le jour où nous serons devenus tous pauvres. C'est inconcevable qu'on puisse laisser des gens mourir de faim, mourir de misère aujourd'hui en France, et que d'autre part, on puisse acheter du parfum chez Dior. Il s'agit en effet de déposer tous ces oripeaux qui nous habillent et qui empêchent que la relation entre les êtres humains puisse se faire d'une manière normale. Les relations aujourd'hui ne sont pas normales, ce sont des relations d'injustice.
Des propos recueillis par Justine Vassogne. En plus bref, un nouvel évêque à Oran, en Algérie, Benoît XVI, a accepté la démission de Mgr Alphonse Georget, qui a atteint la limite d'âge, et a nommé pour le remplacer le père Jean-Paul Vesco, jusqu'ici supérieur provincial des Dominicains de France. Le père Vesco est né à Lyon, il est âgé de 50 ans, il a exercé la profession d'avocat avant d'entrer chez les Dominicains en 1995. Il connaît bien Oran et l'Algérie pour y avoir déjà passé plusieurs années. L'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale se mobilise en faveur des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, dévastées par la rébellion du M23, tueries, viols, enrôlement d'enfants soldats, déplacements forcés, exploitation anarchique des ressources naturelles. Ce dimanche, une collecte sera organisée dans les pays de la région des Grands Lacs en faveur des Congolais réfugiés au Rwanda, Burundi et Tanzanie. Ce premier dimanche de l'Avent sera aussi une journée de prière pour la réconciliation dans cette région du monde. Attention, il y a quelqu'un dedans. C'est le livre Pour Dieu que nous propose cette semaine Catherine Aubin. Et c'est une lettre ouverte aux personnes malades, écrite par l'une d'elles, pour qui le quotidien est un jour devenu une terrible traversée. Son auteur, Christine Vatio, est mère de famille. Elle est atteinte d'une maladie chronique. Éducatrice, elle a obtenu un diplôme de théologie pratique à l'Institut catholique de Lille. Elle participe à de nombreuses sessions sur la maladie et le handicap.
Christine Vatio, pourquoi ce titre ? Attention, il y a quelqu'un dedans. Dedans qui ?
Au fur et à mesure de mon expérience de personne malade, je me suis rendu compte à quel point c'était impressionnant de voir que la maladie ou le handicap pouvait isoler la personne et lui faire perdre sa propre dignité à ses propres yeux, tant la société réclame des gens performants, des gens beaux. Et la maladie et le handicap provoquent une sorte d'isolement comme ça de la personne parce que vis-à-vis du monde, elle se sent mise à part. Et le choix de ce titre dit bien mon sentiment de réclamer que une personne malade, c'est d'abord une personne avant et devant une maladie.
Vous avez vous-même, Christine Vatio, beaucoup souffert de beaucoup d'attitudes des uns et des autres. Et vous le racontez dans votre livre.
Je voulais en fait vraiment expliquer à la personne malade qu'elle n'est pas seule dans cette galère, dans cette aventure de la maladie. Nous sommes toute une sorte de grande famille et de fraternité dans la maladie. Et ça, ça peut nous faire générer une énergie vraiment très très puissante vis-à-vis justement des relations avec le monde extérieur. Et je voulais aussi dire au monde, regardez-nous, on est autre chose que la maladie. Et du coup, j'ai un peu déployé pour présenter ce que ça voulait dire qu'être une personne malade, trois niveaux, un niveau sociologique, un niveau psychologique et tout modestement à mon propre niveau et pour juste dire mon expérience, un niveau spirituel. Par exemple, une personne malade, surtout d'une maladie chronique, c'est par exemple être abonné aux appels téléphoniques pour se décommander d'une réunion, pour se décommander d'un événement qui était prévu, un projet, une fête de famille, parce que la maladie a encore crié plus fort que d'habitude. Par exemple, souvent on me dit « Non, non, toi, bouge pas, on va faire à ta place ». Et ça, c'est particulièrement insupportable, parce que notre revendication de personne malade, c'est non pas d'être à part du monde, mais être complètement plongé dans le monde. Un point sur lequel j'ai voulu insister et donner des repères aux gens qui nous accompagnent, c'est de demander aux gens et aux accompagnants d'être conscients de ce combat spirituel que nous vivons quand nous sommes personnes malades et croyants. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, on vit une double peine parce qu'à la fois, on est envahi par la souffrance et l'incompréhension de ce qui nous arrive et on est confronté à des pensées qui nous sont interdites d'exprimer. Il est très dur de dire à des communautés chrétiennes ou à des chrétiens qu'on croise qu'on en veut au bon Dieu, qu'on est fâché, que limite on l'a perdu et qu'on ne le retrouve plus.
Vous dites aussi à un moment donné, on entend souvent « offre ta souffrance à Dieu ». Et là, vous nous interpellez très fortement.
Oui, je ne suis pas du tout copine fascine avec la souffrance. Je l'ai même inventée comme une entité à l'extérieur de moi, en face de moi. Je lui parle comme à quelqu'un contre laquelle je lutte. C'est quelque chose de moche, la souffrance. C'est quelque chose qui avilit l'humain. Je n'y trouve aucune valeur pour être offerte. Ce que je peux offrir à Dieu dans le cadre de la souffrance, c'est la réaction que je développe face à elle. C'est-à-dire cette volonté de se battre. Et c'est ça que je suis heureuse d'offrir au Seigneur, la force qu'il m'insuffle pour lutter contre elle et pour vivre avec elle.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Aubin. Dernier volet de cette émission, nous retrouvons le Père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 2 décembre, premier dimanche de l'Avent. C'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 28 et 34 à 36. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Jésus parle à ses disciples de sa venue.
L'évangile de ce premier dimanche de l'Avent nous parle de l'avènement du Fils de l'homme dans la gloire. L'Avent est le temps liturgique que l'Église nous propose afin de nous préparer à Noël, à la naissance de Jésus dans notre monde. Mais alors, pourquoi lire un évangile sur la fin des temps? Tout simplement parce que le point commun de ces deux événements est la venue de Jésus. Une première venue dans le sein de Marie, puis une seconde dans la gloire à la fin des temps. Pour être plus complet, il faudrait cependant y ajouter une troisième venue, celle qui se fait dans notre cœur aujourd'hui. L'évangile de ce jour nous aide à nous préparer à ces différentes venues de Jésus en nous donnant trois conseils. Le premier est un appel à ne pas craindre la venue de Jésus. Lors de l'avènement du Fils de l'homme, il nous est dit que les nations seront affolées, que les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Mais pour ceux qui attendent ce jour, il s'agit de se redresser, de relever la tête. Aucune crainte pour celui qui se prépare à la venue du Christ. Il sait que le Seigneur est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Ce jour-là n'est donc pas objet de crainte, mais de désir. Le second conseil que Jésus nous donne est celui de résister aux tentations de la débauche, de l'ivrognerie et des soucis de la vie. La débauche et l'ivrognerie, il n'y a là rien de bien surprenant. Mais la tentation des soucis de la vie est-elle plus subtile? Parfois, le quotidien occupe toute notre attention et l'on se démène. On court à droite, à gauche, en pensant que l'on peut tout résoudre par soi-même. Dans la parabole du semeur, celui qui est étouffé par les soucis du monde est représenté par la graine qui a été semée dans les épines. La comparaison est intéressante. Les soucis du monde sont comme des épines qui, d'une part, nous empêchent de grandir, de nous tourner vers le Seigneur, et d'autre part, nous font mal. Jésus nous invite à rester vigilants. Lorsque je sens la griffure de ces épines, c'est qu'il est temps de poser un acte d'abandon et de venir déposer mon fardeau, mon joug, pour me mettre à l'école de Jésus. Saint Ignace de Loyola nous a laissé une belle formule à ce propos. Prie, car tout dépend de Dieu, mais agis, comme si tout dépend de toi. Ainsi, il est capital de travailler, de s'investir dans nos activités. Mais il ne faut pas oublier de prier, car tout dépend de Dieu. La prière, c'est le troisième conseil que nous livre cet évangile. La prière est ce temps où j'arrête mes activités et où j'offre tout à Dieu. Tout d'abord, je m'offre moi-même, avec mes erreurs, mon péché, et je me plonge dans sa miséricorde. Cette offrande de moi-même est aussi une louange pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie, pour sa providence. J'offre aussi ceux qui me sont chers, ma famille, mes amis, ceux avec qui je travaille. Dans l'Eucharistie du dimanche, je vis pleinement mon sacerdoce baptismal en offrant un sacrifice de louange, d'action de grâce pour tous les événements de la semaine, qu'ils aient été joyeux ou douloureux. Enfin, l'Évangile nous parle d'une prière en tout temps, c'est-à-dire d'une disposition du cœur où, quelle que soit mon activité, je demeure en sa présence. Je sais qu'il est là, avec moi, je sais qu'il m'accompagne chaque jour, et prends soin de moi.
Et c'est sur ce commentaire du Père Pascal Montavi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bon dimanche à tous.